Chapitre 25. Malin, c'était le mot que tout le monde employait pour décrire Eménike au lycée. Malin, disaient-ils, plein de l'admiration perfide qu'ils éprouvaient à son égard. Un type malin, un garçon malin. Si des questions d'examen fuitaient, Eménike savait comment se les procurer. Il savait aussi que telle fille s'était fait avorter, que telle propriété appartenait à des parents d'étudiants fortunés, que tel professeur couchait ensemble. Il parlait toujours vite, avec détermination, comme si chaque conversation était un débat, la vitesse et la force de sa parole exprimant l'autorité et décourageant la contestation. Il savait et était avide de savoir. Chaque fois que Kayode revenait de ses vacances à Londres, rempli d'importance, Eménike le questionnait sur les musiques à la mode et les derniers films, puis examinait ses vêtements et ses chaussures. Il demandait, les yeux brillants d'une envie féroce, « C'est quel couturier? Quelle marque ?» Il avait dit à tout le monde que son père était ligoué de sa ville natale et qu'il l'avait envoyé à Lagos vivre chez un oncle jusqu'à l'âge de 21 ans pour lui éviter les pressions d'une vie princière. Mais un jour, un vieil homme était arrivé à l'école, en pantalon rapiécé aux genoux, le visage émacié, le corps courbé sous le poids de l'humilité due à la pauvreté. Tous les garçons avaient ri en découvrant qu'il était le père d'Eménike. Les moqueries furent vite oubliées, peut-être parce que personne n'avait vraiment cru à cette histoire de prince. Kayode, dans son dos, l'appelait toujours le paysan. Ou peut-être avait-il besoin d'Eménike, qui possédait des informations que personne d'autre n'avait. C'était son assurance qui avait attiré Obinze. Eménike était un des rares élèves pour qui lire ne voulait pas dire étudier, et ils passaient des heures à parler de livres, à échanger leurs connaissances, à jouer au Scrabble. Leur amitié avait grandi. À l'université, quand Eménike partageait une chambre avec lui dans le quartier des garçons de la maison de sa mère, les gens le prenaient souvent pour un parent. « Que devient ton frère ?» demandait-on à Obinze, et il répondait « Il va bien », sans prendre la peine d'expliquer qu'Eménike et lui n'étaient pas parents. Mais il y avait beaucoup de choses concernant Eménike qu'il ne connaissait pas, des choses au sujet desquelles il savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Eménike quittait souvent l'école pendant des semaines, disant vaguement qu'il était « rentré chez lui » et il parlait interminablement de gens qui avaient réussi à l'étranger. Il montrait la fébrilité, l'impatience de quelqu'un qui estimait que le hasard lui avait par erreur attribué un rang indigne de sa vraie destinée. Quand il partit en Angleterre pendant une grève en deuxième année, Obinze ne sut jamais comment il avait obtenu un visa. Malgré tout, il était content pour lui. Eménike était mûr, débordant d'ambition, et Obinze considéra son visa comme une grâce. Cette ambition finirait par être satisfaite? Elle le fut rapidement, semblait-il, Eménike n'en voyant que d'excellentes nouvelles, son doctorat terminé, son job à l'agence du logement, son mariage avec une Anglaise qui était avocate à la City. Eménike fut la première personne qu'Obinze appela à son arrivée en Angleterre. « Le Z, c'est super d'avoir de tes nouvelles. Je te rappelle, je suis sur le point d'entrer en réunion de direction. » dit Eménike. La deuxième fois qu'Obinze appela, Eménike parut un peu agacé. « Je suis à Heathrow. Georgina et moi partons à Bruxelles pour une semaine. Je te rappellerai dès mon retour. Je suis impatient de rattraper le temps perdu, mon vieux. » La réponse d'Eménike dans son email avait été similaire. « Tellement content que tu viennes par ici, mon vieux. Impatient de te revoir. » Obinze avait espéré bêtement qu'Eménike le prendrait sous son aile, lui montrerait la voie. Il connaissait de nombreuses histoires d'amis et de parents qui, sous l'éclairage brutal de la vie à l'étranger, étaient devenus des avatars peu fiables et même hostiles de ce qu'ils avaient été. Mais était-ce à cause de l'obstination de l'espoir, du besoin de croire en sa propre singularité, que ces choses ne semblaient arriver qu'à des gens dont les amis étaient différents des vôtres? Il appela d'autres amis. Nossa, qui était parti juste après son diplôme, vint le chercher à la sortie du métro et l'emmena en voiture jusqu'à un pub où d'autres amis vinrent bientôt les rejoindre. Ils évoquèrent en riant l'époque de leurs études, donnèrent peu de détails sur leur nouvelle vie. Quand Obinze dit qu'il avait besoin d'avoir un numéro de sécurité sociale et demanda « Les gars, comment dois-je m'y prendre ?» Ils secouèrent tous vaguement la tête. « Faut se tenir au courant, mon vieux, » dit Chidi. « Essaye de te rapprocher du centre de Londres. Tu es trop loin de tout dans les sexes, » dit Wale. Comme Nossa le reconduisait au métro un peu plus tard, Obinze demanda « Et toi, où travailles-tu ?»
Sous terre. Une arnaque, mais les choses vont s'améliorer.
Bien qu'Obinze ait compris qu'il parlait du métro, les mots « sous terre » évoquèrent des tunnels sinistres qui plongeaient au tréfonds de la terre et continuaient indéfiniment, n'aboutissant nulle part.
« Et monsieur Emenike le malin ?»
demanda Nossa d'un ton acerbe.
« Il s'en tire très bien et habite Islington avec sa femme Oyimbo qui est assez vieille pour être sa mère. » Il est devenu snob, oh. Il ne parle plus aux gens ordinaires. Il pourrait t'aider à te débrouiller.
Il voyage énormément. On n'a pas eu le temps de se voir, dit Obinze, conscient que sa réponse manquait de conviction.
Et comment va ton cousin Iloba?
Demanda Nossa.
Je l'ai rencontré l'année dernière au mariage du frère d'Emeka.
Obinze avait oublié qu'Iloba vivait maintenant à Londres. Il l'avait vu pour la dernière fois quelques jours avant la remise des diplômes. Iloba venait du village natal de sa mère, mais il parlait avec un tel enthousiasme de leur proximité que tout le monde sur le campus croyait qu'ils étaient cousins. Il rejoignait souvent Obinze, souriant et sans y être invité, et se mêlait à ses amis dans un bar au bord de la route, où il apparaissait à sa porte le dimanche quand il se reposait, engourdi par la torpeur de l'après-midi. Un jour, Iloba avait abordé Obinze dans la cour du bâtiment des études générales en l'appelant chaleureusement « cousin » et il lui avait fait le récapitulatif des mariages et décès des gens originaires de la ville de sa mère qu'il connaissait à peine. « Oudouak Poigny est mort il y a quelques semaines.
Tu ne le connaissais pas? Leur maison est voisine de celle de ta mère. »
Obinze hochait la tête et émettait les sons appropriés pour faire plaisir à Iloba, dont l'abord était toujours si aimable et si spontané, avec ses pantalons trop étroits et trop courts qui découvraient ses chevilles osseuses. Il lui avait valu le surnom d'Iloba la sauterelle, bientôt transformé en Loba Jobar. Obinze obtint son numéro de téléphone par Nicolas et l'appela.
« Le Z, cousin, tu ne m'as pas dit que tu venais à Londres, » dit Iloba. « Comment va ta mère ?» Et ton oncle, celui qui s'est marié avec quelqu'un d'Abagana. Comment va Nicolas ?
Iloba semblait simplement heureux. Certaines personnes sont de naissance incapables de se laisser envahir par des sentiments négatifs, embarquées dans des complications, et Iloba faisait partie de ces gens-là. Face à eux, Obinze ressentait de l'admiration et de l'ennui. Quand il demanda à Iloba s'il pouvait l'aider à obtenir un numéro de sécurité sociale, il aurait compris qu'il montre un peu de dépit, d'amertume. Après tout, il l'avait contacté uniquement pour lui demander un service. Mais à son grand étonnement, Iloba fut sincèrement désireux de l'aider.
« Je te laisserai bien utiliser le mien, mais j'en ai besoin pour travailler et c'est risqué, » dit-il.
« Où travailles-tu ? » demanda Obinze.
« Dans le centre de Londres. Agent de sécurité. Ce n'est pas facile. Ce pays n'est pas facile, mais on se débrouille. » Le service de nuit me plaît parce que cela me donne du temps pour étudier. Je prépare un master en management à l'université Birkbeck.
Iloba marqua une pause.
T'en fais pas, le Z. Nous allons tous nous creuser la cervelle. Je vais chercher autour de moi et je te ferai signe.
Iloba appela deux semaines plus tard pour dire qu'il avait trouvé quelqu'un.
Il s'appelle Vincent Obi. Il vient de l'état d'Abia. Un de mes amis a eu le contact, il veut te voir demain soir.
Ils se rencontrèrent chez Iloba. L'appartement était étouffant, l'environnement de béton dépourvu d'arbres, les murs lépreux des immeubles, tout paraissait trop petit, étriqué.
« Très sympa ton appart, Loba Jobar, »
dit Obinze, non parce que l'appartement était agréable, mais parce que Iloba avait un endroit où loger à Londres.
« Je t'aurais bien proposé d'habiter avec moi, le Z, mais je vis ici avec deux de mes cousins.
Iloba posa des bouteilles de bière et une petite assiette de chin-chin frit sur la table. Devant ce rituel de l'hospitalité, le mal du pays s'empara d'Obinze. Il lui rappelait son retour au village avec sa mère à Noël, les tantes qui lui offraient des assiettes de chin-chin. Vincent Obi était un petit homme rondouillard, perdu dans un jean trop large et un vilain manteau. Tandis qu'Obinze et lui se serraient la main, ils se jaugèrent réciproquement. Dans le port de ses épaules, dans ses manières acerbes, Obinze sentit que Vincent avait très tôt appris, par nécessité, à se débrouiller seul. Il se figura son existence au Nigeria, une école secondaire communautaire, pleine d'enfants aux pieds nus, une école technique payée grâce à l'aide de plusieurs oncles, une famille nombreuse et une foule de personnes à charge dans son village qui, chaque fois qu'il leur rendait visite, s'attendaient à le voir distribuer équitablement miches de pain et argent de poche. Obinze se vit à travers le regard de Vincent, un gosse d'universitaire qui avait grandi en mangeant du beurre et venait maintenant lui demander son aide. Au début, Vincent affecta un accent britannique, disant « spa » à tout bout de champ. « Ce sont les affaires, spa ? Mais en même temps, je t'aide », dit-il. « Tu peux utiliser mon numéro de sécurité sociale et tu me donnes 40% de ce que tu gagnes. Ce sont les affaires, spa ? Si je ne touche pas ce qui est convenu, je te dénonce. » « Mon frère, » dit Obinze, « c'est un peu trop. Tu connais ma situation, je n'ai rien. S'il te plaît, essaye de réduire. » 35%, c'est tout ce que je peux faire. Ce sont les affaires. Il avait perdu son accent et parlait anglais nigérian à présent. Laisse-moi te dire que beaucoup de gens sont dans ta situation. Iloba s'adressa à lui en igbo. Vincent, mon frère que tu vois ici avec nous essaye d'économiser de l'argent et d'avoir ses papiers. 35, c'est trop. Oh, Rika, Biko, s'il te plaît, essaye de nous aider. Vous savez que certains prennent la moitié. Oui, il est dans cette situation, mais nous sommes tous dans une situation. Je l'aide, mais ce sont les affaires. L'Igbo de Vincent avait une intonation campagnarde. Il posa la carte de sécurité sociale sur la table et était déjà en train d'inscrire le numéro de son compte bancaire sur un bout de papier quand le téléphone d'Iloba sonna. Ce soir-là, comme tombait le crépuscule et que le ciel se couvrait d'une ombre violet pâle, Obinze devint Vincent.